France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Hopkinson Smith. Je suis né le 7 décembre 1946 à New York. J'habite Bâle et on est bien ici avec Judith et son équipe pour cette interview.
Hopkinson Smith.
Salut.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, à Bâle, en Suisse. Vous êtes musicien, on l'entendait, vous êtes pédagogue, une vie vouée aux répertoires anciens pour cordes pincées, musique espagnole pour vihuela ou guitare baroque, musique française pour luth renaissance ou baroque, musiques anglaises et italiennes des 16e et 17e siècles, mais aussi musique du haut baroque allemand. Un art polymorphe, des sonorités parfois lumineuses, parfois ombrées d'une profonde mélancolie. De tout cela, nous allons parler tranquillement. Nous avons aujourd'hui le luxe du temps. Francis Poulenc se décrivait moine et voyou. Et en pensant à vous, je me suis dit, est-ce que vous, vous seriez autant ermite que gitan?
Ermite dans le sens... pour le temps qu'on passe avec l'instrument, pour la vie intérieure qu'on crée et pour la dimension spirituelle que ces instruments offrent. Et gitan, on peut dire un peu en rigolant, mais quand même d'être souvent en voyage pour les concerts, pour les productions. Et donc ça, ce sont deux aspects du musicien moderne.
Quand vous étiez jeune, vous aviez très vite la musique autour de vous ou c'est quelque chose que vous avez acquis au fil du temps et des rencontres? L'environnement qui vous voit naître, New York, 1946.
Oui, donc il y avait un certain élément de musique dans la famille, mais je ne suis pas fils de musicien. Ma grand-mère était très musicienne. Elle jouait du violon, elle jouait du piano, mais elle était une personnage pas toujours des plus généreux. Mais quand même, on avait, mon père avait un disque de clavecin. Je me souviens de la première fois quand il avait acheté un tourne-disque 33 tours. Et je ne pouvais pas croire que tant de musique sortait d'une chose qui allait tellement lentement. Et de petit, on avait joué avec mon frère. On avait un tourne-disque manuel.
Un gramophone.
Un gramophone. Et on écoutait les œuvres orchestrales de Tchaïkovski. Et plusieurs choses comme ça. Mais pas entouré de musique. C'est plutôt quelque chose qui venait lentement. J'avais même pas, en adolescence, l'idée de que je pourrais être vraiment musicien pour ma vie, quoi.
C'était la mère de votre père, alors, cette grand-mère qui était musicienne?
Non, c'est la mère de ma mère. Elle avait joué dans l'orchestre de Buffalo, New York, dans les premiers violons. Et elle était très amie avec David Manes, de l'école
Manes School of Music.
Voilà. Donc, ils étaient très motivés par les mêmes buts. Voilà.
Et votre mère, elle, pas musicienne alors? Mélomane un peu?
Un peu mélomane, elle chantait dans un quatuor de femmes qui à Noël allait dans les hôpitaux pour présenter quelque chose de gai pour les gens enserrés. C'est plutôt comme adolescent, avec mon frère, on a joué des guitares avec les cordes métalliques, des choses pop, des choses folk. Et ça a amené peu à peu à la guitare classique. Mais je dois dire que d'enfant aussi, j'avais des cours de piano. De l'adolescence, j'ai repris des cours de piano qui m'a beaucoup presque équilibré. Et je ne savais pas que la guitare classique vraiment existait jusque j'avais 17, 18, 19 ans. Et là, c'est le moment où la passion pour les cordes pincées m'est devenue obligatoire.
He's up each morning bright and early to wake up all the neighborhood, to bring to every boy and girlie happy serenade on wood. Hear him picking out a melody, peck, peck, pecking at the same old tree. He's as happy as a bumblebee all day long. To serenade your lady, just find a tree that's shady. And when you hear that tick, a tick, 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 a tick, 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 sing right along. Come on and try his rhythm, and let your heart beat with him. Just listen to that tick, a tick, 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 a tick, tick, happy little woodpecker song.
Quel était le métier de vos parents?
Mon père était architecte et photographe d'architecture qui a fait énormément de grands projets, des livres, des expositions sur l'architecture. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment créé sa propre voie dans la vie, très indépendant. Et que, dans un certain sens, je crois que l'exemple de lui comme individu m'a quand même indirectement inspiré.
Dans la façon de regarder le monde?
Dans le fait de choisir une voie qui n'était pas très commune.
C'était une manière de regarder la ville alors, j'imagine. Vous êtes né à New York, mais où est-ce que vous habitez quand vous êtes jeune?
Oui, oui.
Dans la ville de New York?
Quand j'étais très jeune, on a habité dans l'État de New York. Pas dans la ville, on était à 5 heures de la ville. Il faut dire que l'État de New York est 2 fois la taille de la Suisse. Donc, les Suisses restent muets en voyant ça. Et là, on était en pleine campagne. Là, j'ai fait les premières années de l'école. Après, on est revenu à New York, à la ville. Et quand j'avais 12 ans ou 13 ans, on m'a envoyé dans un internat jusqu'à 19 ans, 18 ans.
Ah, il était loin?
Oui, c'était Massachusetts. C'était aussi pour libérer mes parents, pour se dédier au projet de mon père, qui voyageait beaucoup.
Toujours en quête de différents langages, d'architecture et de formes. Et...
Oui, oui, on a, derrière toi, il y a plusieurs livres que lui, il avait fait sur les États-Unis, sur la Suisse, sur l'Italie, sur la Suède,
incroyable.
Brésil, plusieurs livres sur comment faire la photographie avec succès.
C'est quelque chose qu'il arrivait à partager, parce que vous dites que finalement vous êtes envoyé en pension pour qu'il puisse se dédier à sa passion, mais est-ce que vous partagiez ça? Est-ce qu'il vous faisait partager ça?
On avait fait quelques voyages ensemble où moi je pouvais aider, et j'ai un très bon souvenir comme enfant de lui aider dans la chambre noire où il a fait développer et agrandir les négatifs, de passer premièrement l'odeur de la chimie et après de passer une feuille toute blanche dans un autre bac, et que peu à peu la photographie prend sa dimension et vient comme magiquement sur le papier.
Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie, on commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution, il faut remuer l'effigie, pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie.
Donc on est venu en Europe plusieurs fois, en été.
Quand vous étiez enfant ?
Oui, donc j'avais 10, 12 ans, comme ça. Et il a fait, par exemple, un livre sur les églises en Allemagne et construites après la guerre, parce qu'il y avait beaucoup à refaire là. Et il y avait une énorme créativité dans les idées, qu'est-ce que c'est l'église et tout ça. Et donc, il a voulu documenter ça. Et c'est un de ses livres qui est assez important. Un autre sur l'architecture moderne en Europe. Et il a fait un livre sur l'Italie. Et on a vécu, quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a vécu à Rome. Ou de 3 à 5, je suis pas sûr exactement. Donc, ça c'est aussi un moment vif dans la mémoire.
Oui, puis j'imagine l'Europe juste après-guerre, comme ça.
Voilà.
C'est quelque chose, c'est l'Italie de la fin des années 40,
oui.
Alors.
Et c'était l'Amérique avant les grandes décadences. Disons, l'Amérique avait toujours bonne mine pour les Européens à cette époque-là.
Et votre mère, alors, suivait votre père dans tous ses voyages ?
Très souvent, oui, oui. Elle avait ses copines à elle, elle avait ses propres intérêts. Mais souvent, elle était avec mon père et elle prenait les notes, elle partageait le point de vue quelquefois. Et elle était très attachée à lui et elle avait beaucoup aidé dans certaines décisions petites et grandes.
Et votre frère, il était en pension avec vous ? Vous étiez tout seul dans le Massachusetts ?
Il était dans une autre école. Et après, il a fait des études de chinois et de l'histoire. Et toujours la religion orientale, lui, avait captivé. Et il a fait le doctorat, il est devenu prof des études asiatiques dans un collège aux États-Unis. Et maintenant, il est en retraite dans une communauté bouddhiste tibétaine au Michigan. Mais il est très musicien aussi. On a joué les guitares ensemble, il a joué la contrebasse. Il a une très bonne oreille, il apprécie beaucoup la musique. Il a fait un cours à Fontainebleau avec Nadia Boulanger aussi, oui, oui. Quand il était au début avec... pas encore tout à fait dans la sinologie.
À la contrebasse alors ou
comment... Non, je crois au piano. Des chorales de Bach.
À des réductions.
Voilà.
Oui, donc quand même, votre frère, il a poussé assez loin aussi la musique.
Oui, c'est vrai, il est très musicien, comme j'avais dit.
Vous évoquez le fait qu'il soit comme ça très spirituel. Dans votre famille, quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y a une religion, une spiritualité ou...
Je crois que c'est plutôt une réaction. que moi, je suis rentré à l'intérieur avec la musique. Lui, il est rentré à l'intérieur avec le bouddhisme. On est deux êtres qui ont dû se protéger, c'est pas le mot, mais se garder bien en soi dans un autre environnement.
France Musique, l'écran entretien de Hopkinson Smith.
Historique, l'assassinat de Martin Luther King, vous vous en souvenez ?
Oui, et je me souviens dans l'école internat où j'étais, Martin Luther King, il est venu une fois faire une conférence. Et c'était quelqu'un qui avait une manière de présenter les mots que chacun restait avec lui pendant qu'il parlait. Et il avait la possibilité de garder un fil connecteur avec l'auditeur qui était très impressionné. Et je me souviens quand il a été assassiné, et je me souviens aussi de l'assassination de Kennedy. J'étais à l'école, on est allé dans la classe d'un prof qui avait un transistor, une radio, et on a suivi chaque détail de comment ça se déroulait. Le lendemain, on avait un service d'église spécial, et les premiers mots de ce professeur qui était aussi prêtre, enfin, « Let us give thanks for the life of Kennedy. » Laissons-nous être reconnaissants pour la vie de John F. Kennedy. Which was a surprise. Non, normalement, quand on est mort, on est... Mais lui, il avait vu le côté réel de... On a beaucoup pour être... reconnaissant. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça en français, mais vous comprenez.
Quand vous grandissez, vous nous dites que vous avez fait du piano. Quand vous vous retrouvez en pension, vous en faites encore de la musique au collège ou...
Oui, et là, j'ai commencé à jouer la guitare électrique dans une band.
Qu'est-ce que vous jouiez comme musique?
C'était l'époque des 60, 65, très rudimentaire, mais avec énormément de rythme et... La folie. Et j'ai composé, j'ai joué aussi dans le fanfare de l'école. J'ai joué toujours les instruments qui manquaient, sans prof. J'ai joué la trompette, j'ai joué le saxophone, j'ai joué le cor. Et ça, j'aimais bien.
Vous appreniez tout seul ou
oui.
Avec des camarades?
Non, j'ai appris tout seul. Et quelquefois, à cet âge-là, on ne se rend pas compte des difficultés. Et une fois, j'ai joué le premier cor. Dans la symphonie des Sommes de Stravinsky. Et je suis même surpris ce que j'étais capable de faire.
Ah bah oui, c'est pas rien ça, c'est pas juste de
c'est
jouer...
C'est vrai.
Vous avez un peu poussé la trompette aussi pendant plusieurs années?
Quand j'avais 12 ans, je ne voulais rien de plus que de jouer la trompette. Oui.
C'était quoi qui vous attirait? C'était un répertoire des grands trompettistes
mais
l'instrument?
On ne peut pas toujours dire c'est quoi qui attire à quelqu'un un instrument. C'est la forme de l'instrument, c'est le toucher, c'est la sonorité, c'est une inspiration de quelqu'un qui joue bien. À l'école où j'étais dans l'internat, il y avait dans la bibliothèque de l'école une série de disques de Segovia. Et à écouter la sonorité de Segovia, ça m'a certainement transformé. Et je ne savais pas jusqu'à ce moment-là que la guitare classique existait. Et moi, comme beaucoup de gens, pensais que c'est Segovia qui avait inventé ça. Et lui, il était très content que si tout le monde le pensait comme ça. Mais là, je dois dire que j'étais fasciné. Et je dois dire, dans l'année où je suis... où j'ai quitté l'école, à 19 ans, équivalent de baccalauréat. J'étais pendant l'été auditeur à la classe de Segovia à Santiago de Compostela, en Espagne. Et j'avais aucun niveau sur la guitare et personne là n'a pu vraiment m'aider. Mais j'étais là et j'ai absorbé beaucoup de bien et j'ai regardé. Il y avait aussi un aspect de Segovia qui était très, un peu trop dominant dans sa manière d'interpréter. C'est pas qu'il voyait l'instruction pédagogique comme une libération de l'esprit de l'élève. C'était plus que la pédagogie musicale, c'est d'apprendre à jouer comme Segovia.
Oui, les disciples.
Oui, ça c'est certainement un individu qui m'a beaucoup influencé.
Cette période de vos études où vous êtes dans la fanfare, etc.,
oui.
Il y a plein d'inspirations.
Oui.
C'est la musique folk, c'est la musique country aussi.
Oui.
Et même appalachienne, ce qui est très exotique pour nous.
Oui, oui. Donc, les origines de la musique country, c'est dans les fermes et les villages de l'Appalachian. Et donc, c'est de là où il y a beaucoup de musique élisabéthaine, jacobienne, a été conservé et fait part toujours de la musique populaire quand on chantait il y a une cinquantaine d'années, toujours. Et donc il y avait un groupe, un ensemble, New Lost City Ramblers, avec le frère de Pete Seeger, avec plusieurs gens, des gens de la ville, mais qui jouaient très très bien leurs instruments et présentaient très bien les textes et les chansons du pays. Et là, il y avait tellement de chansons que je jouais de mandoline, je jouais de banjo, je jouais de la guitare, tous ces instruments, et je chantais avec les autres, on essayait de faire de notre manière, et je ne voulais rien de plus que de faire cette musique à cette époque-là pour le reste de ma vie. Donc les choses ont changé, ont évolué, etc.
I saw a man at the close of day standing round the grocery door. His eyes were sunk, his lips were parched, and I viewed him o'er and o'er.
C'est sur cette chanson des New Lost City Ramblers avec Mike Seeger et Tom Pelley que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Hopkinson Smith. Réalisation François Connac, prise de son Virginie Lorda, mixage Dauphard Guérid, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France.
Oh, father, mother, sick at home, and sister cries for bread. He turned around, went in at the door, he staggered up to the bar, and faltering unto the landlord said, just give me one glass more.
À réécouter sur francemusique.fr.